Alors, je voulais commencer par un petit témoignage. Il y a Ellie qui va me faire les gros yeux à un moment. Voilà. Un témoignage personnel pour lancer un peu cette question qui vous allez le voir, m'encombre depuis des années, la question de la transformation de nos vies, en particulier du lien qu'on a entre nous dans l'époque telle qu'on est en train de la vivre aujourd'hui. En gros, il y a 20 ans, j'étais jeune adulte et je commençais à me dire que le monde tournait vraiment pas rond et qu'on allait vers quelque chose qu'on connaissait pas, mais qui était assez imprévisible et assez effrayant. Et du coup, je me disais, avec les copains avec lesquels j'étais, qui partageaient les mêmes idées que moi, moi je me disais, mais forcément, on va changer les façons, enfin, on va pas rentrer dans un mode de vie conventionnel. On va trouver d'autres façons de vivre pour se dégager des leviers d'action qui nous permettent de réagir par rapport à ce qui nous arrive, quoi. J'imaginais pas qu'on puisse suivre les chemins plus ou moins conventionnels, en fait, qui, de mon point de vue, limitaient forcément les degrés de liberté et d'action. Et en fait, les copains, ils sont mariés, ils ont trouvé un boulot, ils ont choisi des modes de vie qui finalement étaient assez classiques. Et je me suis retrouvé un peu tout seul avec mes grandes idées. Et puis 10 ans plus tard, il y a eu un peu la même chose justement avec Ellie et la bande là. Où pareil, j'avais trouvé des amis avec qui je me disais, oh, voilà, on est encore en résonance sur le constat. Et donc forcément, on va être en résonance aussi sur les choses à mettre en œuvre. Alors, on aurait voulu commencer à créer des lieux de vie un peu collectifs. Et moi-même, j'étais plein de peur à l'époque, donc j'ai ma part de responsabilité si ça s'est pas fait. Mais toujours est-il que, nouvel échec, on n'avait encore pas changé, transformé nos façons de vivre. Et puis voilà, après j'ai eu des soucis de santé pendant pas mal d'années, et puis voilà, là ça va mieux, du coup je suis encore avec ma grande idée, un peu comme, je sais plus comment il s'appelle, bon bref, qui cherchait des moulins et tout ça là. Ouais, Don Quichotte, voilà. Je reviens et voilà. Et donc on est là ce soir. Et donc avec cette question, quoi. Si l'état du monde est ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on fait structurellement et dans le lien entre nous? Alors, en fait, il y aurait donc sur cette l'apport que je vous propose, il y aurait un temps de constat assez rapide, un temps pour dire les solutions qu'on a actuellement en face de ces constats, et puis un temps plus long pour parler d'autres solutions, notamment avec fondées sur le pape François. C'est quand même sérieux. C'est pas juste mon petit avis. Alors le constat en 3 points. Le premier point, on est source de violence dans le monde. Alors je sais pas si quand je dis ça, en quoi ça fait écho, si y en a qui ressentent qu'ils sont violents pour le monde à certains points de vue. Est-ce que ça vous parle ou pas? Ça serait quoi, par exemple? Bah, c'est vrai que j'avais dit que je parlais tout le temps, puis en fait, je vous donne la parole. Mais faut choisir. C'est pas pour des questions, c'est juste pour. Non, mais ouais, bon. Alors, je fais mon monologue. Allez. J'avais dit que ça serait hésitant. Oui, c'est ça. Ben, en fait, on en est tous au courant, bien sûr. On peut pas faire grand-chose sans pétrole pour se vêtir, pour se déplacer. On peut pas faire grand-chose sans nos téléphones, même s'il y en a qui s'en passent. On peut pas. Enfin voilà. À tous les niveaux, en fait, dans tous les domaines de notre vie, on est amené à nuire à la création, pour parler que de la création, mais aussi à nuire aux frères et sœurs humains à l'autre bout du monde, qui sont dans les mines ou ailleurs. Et en fait, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans l'histoire humaine. Et donc, c'est quand même, voilà, c'est pas, c'est une première pierre qui est pas évidente. Le pape François, il dit, les évêques de Nouvelle-Zélande se sont demandé ce que le commandement "tu ne tueras pas" signifie quand 80% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. Voilà, donc ton premier point du constat, on est source de souffrance pour le monde. Deuxième point, on souffre nous-mêmes. Et ça, en fait, c'est peut-être moins évident Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens pour qui c'est très évident. Il y a des gens pour qui ça l'est peut-être moins. Mais j'ai fait toute une petite liste. Je peux vous en proposer certains bouts. Déjà, faire souffrir, c'est une souffrance, parce qu'on n'est pas sur Terre. Dieu, si on est croyant, ne nous a pas placés sur Terre pour qu'on détruise sa création, mais plutôt pour qu'on y contribue. Donc en soi, déjà, le premier point que je disais, on est source de souffrance. Bah, déjà, c'est une souffrance d'être source de souffrance. Et après, pêle-mêle, en fait, pour des gens, trouver un travail qui sera porteur de sens et source de rémunération, ben, c'est pas évident. Du coup, c'est une souffrance. Répondre aux injonctions de perfection, pardon, qu'on nous inflige sur Instagram ou quoi, ou même dans la société en général, c'est une souffrance. Désapprendre les comportements déviants que la société nous a apprises. Bah, c'est pas facile non plus. On peut aimer consommer. Enfin, il y a la publicité partout. Il y a le tabac. Il y a le patriarcat qui a mis des choses en nous. La vie hors sol, dans les villes, etc. Toutes les addictions diverses. Je sais plus si je l'ai dit déjà. Il y a des gens pour qui la santé, et même sûrement beaucoup de gens pour qui la santé est impactée par toutes les cochonneries de notre temps. Pour certains, ils se demandent s'ils doivent être parents ou non. C'est quand même pas une question anodine pour l'équilibre des personnes d'en venir à se poser ces questions-là. Voilà. Et la liste est sûrement très longue encore. Donc, on est source de souffrance, on souffre. Et le troisième point, et après ça arrête d'être glauque, je vous promets, c'est, mais il est glauque quand même celui-là, on va vers le pire. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on connaît actuellement. Et on sait, pour l'entendre au moins, qu'on est sur une pente qui est descendante, et on parle d'effondrement même, qui serait comme des ruptures de pente. Donc, voilà, et on sait. Alors, il me semble que sur ce point-là, on a comme un problème de croire à ce qu'on sait. C'est-à-dire que actuellement, dans les magasins, il y a toujours à manger, on a de l'électricité quand on branche le téléphone et tout ça. Du coup, c'est des réalités dont on n'a pas réellement la il y a personne assez vieux ici pour avoir connu la guerre, au moins la Deuxième Guerre mondiale, mais on n'a pas expérimenté ça pour l'instant, à part un peu le Covid quoi, donc en fait ce qu'on s'apprête à vivre pour l'instant, on l'entend mais on le vit pas, donc on l'incarne pas, enfin et là où du coup peut-être ce qui fait à mon expérience aussi, c'est que donc moi j'ai eu des soucis de santé qui m'ont beaucoup isolé socialement, et en fait du coup une expérience de vie différente de celle habituelle, je suis sûrement pas le seul ici à pouvoir témoigner de ça, mais j'ai eu l'impression d'expérimenter quelque chose de pas normal en fait déjà pendant plusieurs années, pendant une longue période, et du coup je sais que le pas normal est probable, enfin peut arriver quoi. Voilà, je m'arrête sur le constat parce qu'en fait on est déjà probablement tous au courant, mais j'avais besoin de repréciser ces points-là pour dire que c'est gros quoi, ce qu'on a en face de nous, que c'est pas du tout anodin. Et justement en fait face à ça, et j'ai beaucoup de respect pour moi-même, je suis un militant des causes environnementales et sociales, j'aime bien me nourrir de ces espaces de lutte, donc je suis pas spécialement contre. Mais j'ai l'impression, enfin, notamment par exemple sur les réseaux lutte et contemplation, on voit passer beaucoup d'appels à des pétitions, à des boycotts des fois, enfin des choses, et puis des fois des choses quand même plus impactantes aussi. Mais pardon, toujours, ces associations, ces groupes militants, ils pointent le regard en dehors d'eux-mêmes, c'est-à-dire que tous les regards du groupe militant se focalisent vers l'extérieur. Ça peut être vers Total, ou vers ICOP, ou vers la pub de je sais pas qui, ou vers Trump. On se focalise vers l'extérieur, et jamais, en fait, on regarde à l'intérieur de nous-mêmes pour voir ce qui s'y passe. J'ai un exemple qui est assez frappant sur le groupe WhatsApp, le groupe plutôt Échange Libre de Lutte et Contemplation. Il y avait des discussions sur... Il y a plein de discussions. Il y avait des discussions un peu sur ce sujet-là, en fait. Et puis, il y a quelqu'un qui dit... moi, en fait, ce qui m'aide, c'est me rappeler la parole de telle ou telle sainte et de me dire que voilà, je fais bien, je fais de mon mieux dans ma réalité, et ça m'aide. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais je me suis dit, en fait, c'est ça la limite actuelle de notre ambition militante sur notre intériorité, en fait. C'est, on crée un espace où les gens peuvent dire comment ils gèrent chacun leur désarroi individuellement dans leur vie. Et c'est ça actuellement qui est proposé. Mince. Bon. Et du coup, c'est là où j'ai envie de mettre en regard ce que j'ai dit juste à l'instant sur on est sûr de nuisance, enfin de souffrance, on souffre et on va vers un pire qu'on connaît pas, donc qui a l'air pas cool. Ça, c'est voilà le constat. Et en face, bah, j'ai l'impression que le compte n'y est pas. Donc, d'où en fait, bah, d'où la soirée de ce soir, quoi, tout simplement. Ça vous parle pour l'instant ou je parle hébreu? Non, c'est bien. Ouais, qui parle hébreu.
Moi, j'ai juste pas très bien compris la fin de ce que tu disais. Tu disais, en gros, on a des espaces pour exprimer notre désarroi individuel,
ouais.
Mais pas collectivement, c'est ça?
Mais en fait, alors, si, en fait, du coup, ça, on a des espaces pour exprimer enfin, pour exprimer comment on gère avec notre désarroi, enfin, comment on compose avec nos souffrances intérieures. Et c'est ça, en fait, les collectifs, ils regardent à l'extérieur d'eux-mêmes, et le peu qu'ils font à l'intérieur, c'est qu'ils permettent un espace où on peut chacun dire comment on gère. Et c'est ça qui me semble trop étriqué comme espace, quoi. C'est ça que j'ai envie de dilater. Et justement, comment le dilater? Ah ah! Eh ben, la proposition du pape. Petit 3. Non, je sais pas. Et en fait, dans Laudato si, que vous avez tous lu, il y a un petit espace qui parle de ce sujet-là, qui est court, mais qui est très intense pour autant, et que je vais vous lire. C'est très court. On répond aux problèmes sociaux par des réseaux communautaires, non par la simple somme de biens individuels. Bon, ça, on est d'accord. Voilà, les petits gestes. Ah, mais j'ai zappé un truc, non? Ah non, c'est bon. Ouais. Voilà. Donc voilà, ça, on est d'accord, je pense. Ensuite, les exigences de cette œuvre seront si immenses que les possibilités de l'initiative individuelle et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes ne pourront y répondre. D'ailleurs, qui met dans le même sac les initiatives individuelles, qu'on a dit qu'elles étaient probablement pas suffisantes, et la coopération d'hommes formés selon les principes individualistes. Pour lui, c'est pas opérant, en fait. Et il continue. Seule une autre attitude provoquera l'union des forces et l'unité des réalisations nécessaires. Une autre attitude. Mais alors, du coup, c'est quoi cette autre attitude? Et, à minima, sans avoir, bon, il y a des pistes, hein, déjà, mais, il me semble que du coup, c'est une bonne question à se poser dans un collectif militant, c'est quoi cette autre attitude? Parce que si on ne se la pose pas, on reproduit forcément les schémas d'avant qui sont, alors on va revenir sur le mot individualiste, mais les principes individualistes qui ne pourront pas répondre. Voilà, il finit. La conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire. Et du coup, nous chrétiens, on connaît l'importance du mot conversion, quoi, qui est pas juste une transformation, qui est vraiment un retournement des pratiques, quoi, et pas que des pratiques, un retournement de l'être. Et du coup, voilà, comment on se pose la question de ça? Alors, juste un mot sur cette histoire d'individualisme, parce que ça va pas forcément de soi. En fait, il me semble qu'on est dans une époque qui a été influencée par l'époque précédente, et qu'il y a eu les Trente Glorieuses, où en fait il y avait à profusion des biens de consommation, il y avait le pavillon individuel qui arrivait, il y avait la voiture individuelle, il y avait tout un tas de choses en fait qui coïncidaient avec les idées de l'époque qui étaient qu'on se libérait, enfin qu'on devenait libre individuellement en fait. Et du coup ça a été vrai dans les années 50, 60, 70. Et puis en fait depuis on est en train de on s'est pris les chocs pétroliers, puis ensuite des crises. Et en fait, sans s'en rendre compte, parce que c'est des crises qui arrivent les unes après les autres discrètement, on n'est plus du tout dans le contexte des Trente Glorieuses, mais par contre, on a encore l'idéologie parce qu'on ne l'a pas remise en cause. Et c'est encore cette idéologie-là qui prime aussi, parce qu'elle colle assez bien avec peut-être des aspirations à l'intérieur de nous qui sont assez naturelles aussi. Et du coup, en fait, on en arrive à avoir... c'est pour ça que j'avais... Je sais plus si je vais retrouver mon petit... Ah, voilà. Je laisserai... j'en ai imprimé juste un, mais j'ai écrit des petits trucs sur le sujet. Et il y en a un qui s'appelle Garde-t-on ses moufles en été ? Avec un monsieur qui s'apprête à jouer du violon et il transpire parce que c'est l'été et il a des moufles. En fait, c'était pour illustrer que l'individualisme à une époque de crise comme aujourd'hui, c'est à peu près aussi pratique que des moufles pour jouer du violon l'été. C'est anachronique et ça n'a rien à faire là, quoi. Et du coup, voilà. Ces principes individualistes qui pourront pas répondre au problème, bah pour moi, ils viennent de là. Et maintenant, bah en fait, je pense que tout le reste du travail, il sera à faire ensemble, mais j'ai encore quelques petits mots à dire. Mais on peut se poser la question, c'est quoi la substance de cette autre, alors, dont parle le pape, de cette autre attitude. Alors en fait, pour commencer, un des premiers principes, ça pourrait être, alors si je pose la question pour commencer, est-ce que c'est inévitable, au début on disait on est source de souffrance, et on peut se demander si c'est inévitable, est-ce que l'être humain aujourd'hui doit nuire pour vivre ? Est-ce qu'on peut faire sans nuire ? On est assez vite tenté de se dire, ben, pas évident quoi, à moins d'être un ermite, etc., c'est vraiment pas évident. Et pourtant, si on pose cette même question à des gens il y a 100 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 10 000 ans, ben, ils comprendraient pas vraiment la question, en fait. De quoi ? On va pas abîmer la nature, ça marche. Enfin, et en fait, c'est les mêmes êtres humains il y a 10 000 ans, ou 1000 ans, ou 100 ans, et aujourd'hui. Et ce qui a changé, c'est la structure qui fait qu'on est amené à nuire pour faire attendre.
Non, il y a 100 ans, je ne suis pas forcément sûr. Il y a 100 ans, on était déjà dedans. Enfin, il y avait des gens qui avaient conscience.
Ouais, il y a 100
ans. De la nuisance sur l'environnement. Sur...
200, 300. Ouais, avant la révolution industrielle. Bon, allez, oui. 1700.
Ouais. Au moins deux pour remonter.
Genre. Ouais, ouais. Après, ce que je veux dire, c'est que le quotidien de nos vies, enfin, moi, j'y étais pas, mais de la vie des gens il y a 100 ans, il n'y avait pas du plastique dans les magasins, dans les grandes surfaces. Le quotidien était même dans les années 50, il n'y avait pas de grandes surfaces, il n'y avait pas de voitures, il y avait énormément de choses qui étaient. Enfin, en tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que c'est la structure société qui fait qu'à un moment donné, ce qui était absolument évident est devenu absolument impossible. Donc, c'est pour montrer la puissance des structures, comment elles façonnent notre réalité, et que du coup, peut-être un des principes de l'autre attitude dont parle le pape, ça serait de créer des sous-structures qui fassent, en fait, comme à contre-courant et qui fassent que dans ces sous-structures, il soit, on puisse essayer de retrouver, en fait, de manière vivable, parce que si on reproduit une structure qui arrive à faire que ce soit, enfin, qui arrive à recréer des conditions dans lesquelles on peut vivre sans nuire, en fait, chaque individu dedans, ben, il n'aura pas de mal à vivre sans nuire parce qu'il sera dans cette sous-structure-là. Quoi. C'était Peter Morin qui disait « Faire une société où il serait plus facile d'être bon ». Ça me parle beaucoup. Bref, donc ça pourrait être un premier élément. Alors après, il y a des formes multiples qui peuvent exister. Il y a des communautés, des lieux de vie, comme l'Arche de Lanza del Vasto. Il y a des tiers-lieux, comme le Dorothy à Paris. Donc ça peut être différent dans la forme, ça peut être différent graduellement aussi, ça peut être très intense ou ça peut être très léger. Mais j'ai l'impression que ce qui compte, c'est de réfléchir à d'avoir une visée quoi en fait, et de réfléchir à comment on avance peu à peu selon cette visée, avec un principe de regarder en soi pour aider dans la structure en question, dans les groupes militants, aider chacun à avancer dans cet axe-là, quoi. Voilà. Et juste pour en reprenant un peu par rapport à en prenant pour exemple l'Arche de Lanza del Vasto, il m'a semblé qu'il y avait quatre éléments qui étaient intéressants. Premier élément, il m'a semblé qu'on était du coup moins nuisible, comme je disais à l'instant, parce que la mutualisation, parce que la vie simple, quand dans un collectif, les gens vivent ensemble et qui servent, du coup, sans aucune douleur, très peu de leur téléphone, c'est beaucoup plus facile que quand on est éclaté dans des tas de lieux différents et que, du coup, pour communiquer, forcément, on a besoin du téléphone. C'est aussi plus puissant. On l'a vu, Lanza, notamment, par exemple, sur la lutte du Larzac, il a pu, par la pratique quotidienne, un peu de la non-violence, etc., s'imprégner de cette culture-là et du coup avoir une vraie voix différente qui lui a permis d'agir vraiment de manière efficace. Et aussi, quand on mutualise, etc., ben, on a on développe des leviers d'action beaucoup plus importants, que ce soit financier ou matériel ou au niveau du temps qu'on a à disposition. C'est aussi plus solide parce que c'était Benoît du Guenvesque qui disait mais le félin ne s'attaque pas à un troupeau mais à un individu isolé. Et donc en fait, quand on est ensemble, on est moins aussi sensible aux agressions, bah, par exemple à toutes les agressions qu'on a listées tout à l'heure, quoi. De stress ou de besoin de gagner de l'argent ou de se débrouiller par soi-même, quoi. Et puis le dernier point, qui est pour moi le plus important, il n'est pas dans l'efficacité, mais il est dans la. Pour moi, c'est aussi des chemins de croissance humain, et ça part du principe que de considérer que le chemin de croissance aujourd'hui de la société actuelle, qui nous oriente vers justement la technologie, l'accélération, la puissance, etc. Ben c'est pas des chemins qui font vibrer notre âme humaine et chrétienne, et que du coup créer d'autres structures, ça permet aussi d'autres chemins de croissance. Et du coup, en fait, ouais, c'est ça que je trouvais aussi important à dire. On pourrait se dire, ah mince, le monde va mal, donc bien obligé, il faut qu'on recrée autre chose, quoi, pour être plus fort. Mais en fait, ça c'est une vision un peu triste de voir les choses. À mon sens, c'est plutôt le monde va mal, mince. Du coup, on crée autre chose, mais en fait, c'est heureux tout ça. Pour moi, ce chemin-là, en fait, il n'est pas d'abord utile pour survivre ou utile pour lutter plus fort ou utile pour autre chose, mais il est d'abord un chemin de croissance intérieure, quoi, qui est plus conforme avec l'Évangile qu'avec justement ce que nous propose la modernité. Voilà. Alors, avant le temps de clarification, qui ouvrira sur les temps de groupe, je fais comme une petite introduction quand même sur ce travail. En fait, pourquoi faire ce travail ensemble? Pourquoi je propose une soirée où on parle de ça plutôt que le faire chacun de son côté? Parce qu'en fait, on peut me dire, mais vas-y, fais ton écolieu ou va où tu veux, Olivier, c'est bien, mais laisse-nous tranquille ce soir. Et en fait, oui, j'aimerais bien, en fait, mais je constate qu'il y a des freins en moi et des difficultés. Et en fait, on sait très bien que quand on est dans une société donnée, ben, il y a des tas d'habitudes, d'habitudes sociales qui sont intégrées en nous et qui peuvent être autant de freins à des transformations. Et que du coup, ces habitudes, ces comportements sociaux, c'est hyper difficile de les changer tout seul. On les change beaucoup plus facilement quand on a le miroir de l'autre en face et quand on constate que l'autre il a les mêmes difficultés et que du coup on trouve ensemble comment les lever. Et en fait, je trouve que c'est assez proche des dynamiques féministes. On peut faire un féminisme où c'est les femmes qui, de manière très intime, constatent pour elles-mêmes ce qui dysfonctionne dans la société et qui essaient de composer avec juste elles-mêmes ou dans des petits réseaux. Ou alors on peut mettre ça, et c'est ce qu'elles ont fait et c'est très bien, on peut mettre ça sur la place publique et dire en fait il y a des vrais problèmes et c'est inscrit en nous tous, et du coup c'est un problème qu'il faut politiquement ensemble résoudre. Et je trouve que c'est un peu la même démarche, quoi. Il y a des biais individualistes en nous qui nous empêchent de transformer, de convertir, d'entrer dans cette conversion communautaire que le pape voit comme absolument nécessaire. Et du coup, posons ça sur la place publique, enfin au moins, voilà, et discutons-en entre nous. Voilà. J'ai des fois un peu l'impression qu'on met la charrue avant les bœufs, avant de lancer des actions qui veulent être directement efficaces, effectivement, et directement parce que, effectivement, les baleines meurent ou le machin, et qu'il faut tout de suite aller sur ce terrain pour tout de suite sauver les choses, parce qu'il y a une espèce, effectivement, d'agitation intérieure qui nous met en mouvement. Moi, je préférerais effectivement qu'on... J'avais une image. C'est un peu comme si on semait des radis, des fois. Alors, les radis, ça pousse très vite, mais il faut les semer toutes les 3 semaines parce que, une fois que c'est mangé, après, il faut en ressemer d'autres, quoi. Mais l'intérêt, c'est que ça pousse très vite. Donc ça, c'est un peu l'action militante. Et je me dis, si des fois, on plantait aussi un peu des châtaigniers, ça pousse beaucoup plus lentement. Mais par contre, une fois que l'arbre, il est là, tous les ans, on a des quantités de châtaignes. Et du coup, ouais, c'est un peu cette double temporalité-là, c'est-à-dire semer des radis aussi parce qu'on a besoin de manger tout de suite, mais penser aussi à planter des chênes, quoi, des châtaigniers plutôt. Chênes, c'est pas terrible. Vous avez parlé de vulnérabilité, là, quand ça parlait dans ce groupe. Et je suis un peu déçu parce que moi, je comptais en parler et dans ce que je disais tout à l'heure. Et puis, en fait, j'arrivais un peu au bout de ce que je pouvais faire au niveau de ma concentration et tout ça. Mais j'aimerais bien, je ne sais pas si je vais réussir à exprimer quelque chose, mais j'aimerais bien exprimer quelque chose quand même, parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est central dans cette histoire de collectif et de communauté. Dans le sens où c'est un peu le coup des 30 glorieuses, quoi. Quand on se croit tout puissant et qu'on n'a pas de problème, c'est la plus grande des tristesses, parce qu'on n'a pas besoin des autres, et que c'est du moment qu'on commence à avoir besoin des autres, mais pas de manière anodine ou accessoire, mais que ça devient vraiment en profondeur. On peut dire c'est une calamité pas possible, parce que du coup on devient dépendant. Et effectivement, c'est effectivement une calamité pas possible si on est dans une société qui rejette la vulnérabilité, parce que du coup on devient un assisté, et humainement c'est hyper difficile à vivre. Et pour moi c'est tout l'enjeu en fait, parce que cette grâce là qui est que j'ai besoin de toi pour m'aider, pour vivre, ça installe des relations aimantes profondes qui n'existeraient pas sinon, parce qu'on n'aurait pas besoin. Et donc c'est merveilleux, et seulement ça ne peut exister que si on est dans un espace qui valorise et qui soutient ce genre de démarche. Et pour moi c'est tout l'enjeu en fait de cette société qui est en train de plonger peu à peu vers des situations, des conditions de vie de plus en plus difficiles. Nous peut-être, ça ne nous touche pas encore très fortement, ça dépend probablement de chaque personne ici, mais il y a des situations beaucoup plus difficiles que ça. Mais on sait qu'on est en train de glisser, et donc si on arrive à une société où on garde cette mentalité-là, mais où on s'affaiblit progressivement, ben en fait ça va devenir invivable. Et si par contre on convertit notre façon d'être ensemble, eh ben j'ai l'impression que c'est là qu'on touche à l'évangile en fait réellement, que l'entraide invite à des liens d'amour qui n'existeraient pas sinon. Et pour illustrer ça, je voudrais juste vous lire un tout petit texte de Sœur Emmanuelle sur son expérience quand elle était au Caire, chez les chiffonniers. Elle dit « Pourquoi avaient-ils cette exaltation, ces enfants ? Pas de jouets, bien sûr, ça n'existait pas. Je crois que c'est ça. Il y avait une sorte de convivialité dans le bidonville. Tous les enfants jouaient ensemble, avec un bout de ficelle, un bout de bois, couraient à travers les ruelles en chantant. Tout le monde applaudissait. Il y avait donc, dans la communication, quelque chose de tellement simple, mais fort, mais quotidien, on pourrait dire à chaque instant, qui faisait que ça donnait sens à la vie à travers ces difficultés. Je sais pas, on montait en cordée. C'est quelque chose de vivre en cordée, avec des centaines et des milliers. Tout le monde se connaît, se sourit, s'interpelle. Et puis un peu plus tard, elle disait, en France, je suis frappée que les hommes communiquent de moins en moins. Chacun vit pour soi, se fait une sorte de cercle où il y a quelques amis, et puis c'est tout. Et voilà. Et du coup, ouais, c'est ça. Tout ce qui a été rendu possible, tristement possible par la modernité, par le luxe, par le confort, etc., qui a fait qu'on a pu vivre les uns sans les autres. Du coup, pour moi, il y a un enjeu de communauté là qui est très fort. Et voilà. Le petit mot de vulnérabilité que je voulais dire pour finir. Pour conclure, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire de tout ça, et c'est sûrement le temps qui le dira. Si jamais il y en a qui veulent, on pourra continuer des rencontres sur le sujet, j'en sais trop rien. En fait, tout est en fonction de ce qui a envie de se vivre. Et voilà, et puis du coup, une invitation à garder à l'esprit qu'il y a ce qu'on fait. Il y a le questionnement sur comment on le fait, et du coup garder cette invitation à cette autre attitude un peu mystérieuse. Comment on construit cette autre attitude dans nos réseaux militants ou pas militants, dans nos communautés, dans tout ça. Ça peut être ça l'invitation finale.